Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, dans un premier temps, j'aimerais tout d'abord remercier les gens de l'Arcé, l'équipe du Bistrot des ethnologues et du Blabla Bar pour m'avoir donné la possibilité aujourd'hui de présenter un petit peu cette recherche. Alors moi, j'ai intitulé cette recherche, la présentation de cette intervention sous le nom de l'autre héritage. Le mauvais œil dans le Maghreb de France, l'autre héritage, c'est quoi? C'est justement celui qui échappe un peu au spotlight de la recherche institutionnelle, c'est-à-dire ce qui se passe derrière le seuil domestique, du côté de la famille, du côté de l'intime, peut-être là, justement, où se présente, où se cultive, où prospère, le lien également avec l'identité, à rebours un peu d'un discours fantasmé sur la culture de l'autre, notamment dans le contexte actuel. Alors comme ça a été dit, ce travail, c'est un travail qui s'inscrit dans une thèse, hein, donc une thèse que j'ai fait à l'EHESS entre 2002 et 2007 à l'antenne toulousaine, sur la direction de Claudine Vassas, et qui a donné lieu à cette publication, La part de l'air en 2010 au CTHS. Alors, peut-être revenir dans une perspective chronologique sur ce qui m'a amené, moi, à travailler sur cette question-là. Alors, moi, je pourrais dire que, finalement, on ne choisit pas un sujet, c'est un peu le sujet qui vient s'imposer à vous, dans des circonstances précises, quoi. Moi, quand j'ai commencé cette recherche, j'avais fait un DEA également en anthropologie historique, donc c'était 99-2000. C'était l'époque où on parlait beaucoup de l'ethnologie des mondes contemporains, quoi. Il y avait beaucoup de publications. Il y avait Marc Auger qui avait publié Un ethnologue dans le métro. Il y avait Abélès sur il y avait tout ce discours, hein, cette production sur faire de l'ethnologie aujourd'hui, ici, à l'instant T, quoi. Explorer, exploiter le monde qui nous entoure. Il y avait dans d'autres champs. Des auteurs comme ça, comme Patrick Declercq, Les naufragés sur les clochards de Paris, Loïc Vacan, Les carnets ethnographiques d'un boxeur. Donc vraiment, il y avait une mode où on utilisait l'outil ethnographique pour essayer de comprendre le réel, quoi. Et donc, j'ai décidé, moi aussi, de prendre le parti, d'interroger, comme ça a été dit tout à l'heure, hein, un peu par déception aussi, par saturation, mais tout en gardant un peu l'intérêt des disciplines que j'avais exploré aussi, quoi, que ce soit l'histoire ou la philo, d'essayer d'interroger justement cet ici et maintenant à travers le regard ethnographique. Et cet ici et maintenant à travers justement un objet, moi, qui me parlait, parce que j'en étais un produit, c'était les migrations. Voilà. Notamment la migration nord-africaine, hein, ce que j'appelle le Maghreb de France par défaut. Voilà, j'ai évité le mot de communauté parce que ce que j'ai pu observer, il n'y a pas de communauté, il y a une présence. Une présence hétérogène, polymorphe, qui s'est constituée comme ça sur la durée, avec différents apports, différentes régions, historiques. Comment classer finalement un ouvrier algérien venu dans les années 50, d'un réfugié qui a fui, et d'un médecin par exemple qui a fui la guerre civile algérienne en 90-92, d'un clandestin, d'un étudiant marocain, de l'élite, tout ça, donc une trajectoire très très différente, mais malgré tout, ils se retrouvent parce qu'ils ont des choses en commun. Voilà. Donc au lieu de parler de communauté, j'ai préféré parler de présence, et à défaut de Maghreb de France. De France parce qu'ils sont ici, ils prennent pleinement partie de cette société, ils en font partie, ils sont français, ils sont ici, quoi. Là-dessus, il n'y a aucun souci, mais malgré tout, parallèlement, on cultive une singularité culturelle, quoi. Une singularité culturelle, un rapport avec un ailleurs. D'ailleurs, jamais sur le mode du même, mais sur le mode de la nouveauté, de l'innovation, du réajustement. Donc j'ai commencé à essayer d'explorer un petit peu ce qui avait pu être fait du côté de l'ethnographie. J'étais relativement déçu parce que, à cette époque-ci, du moins, l'ethnographie des migrations, il y avait quelques auteurs, des gens comme Jean-Pierre Assoun, l'équipe qu'il y avait à Paris. Il y avait Lacoste du Jardin, Camille Lacoste du Jardin, qui avait écrit quelques trucs. Mais finalement, du côté de la socio, pareil, dont on était dans une perspective assez sociologique, mais finalement, je restais assez sur ma faim, quoi. Voilà. Cette question du lien entretenu, voilà, avec, avec ce qu'on pourrait appeler, moi, ce que j'appelais à l'époque, entre guillemets, la culture d'origine. Parce qu'en fait, après, les choses ont changé. Parce que finalement, moi, j'avais un pied quand même dans cette histoire-là. Et je m'apercevais qu'il y avait des choses, quoi. On continuait à pratiquer, on faisait des... Il y avait un rapport comme ça au réel, il y avait des pratiques symboliques, il y avait des choses comme ça qui tissaient un lien, quoi, finalement. À la fois entre l'ici et là-bas, mais aussi entre les générations. Et finalement, il y avait cette vérité, cette évidence, hein, c'est que l'exil n'est pas un ethnocide. Hein. Quand on lisait, par exemple, certaines sociologies, on s'aperçoit finalement que beaucoup de migrants, finalement, le rapport à la culture d'origine n'existait pas. Quoi. La culture d'origine était absente, finalement. On avait le travailleur immigré, voilà, qui est une sorte d'homme nouveau, quoi, qui était prêt à s'investir dans la cause politique dans les années 80, 70. Mais cette charge, on va dire, cette charge culturelle, ce legs culturel n'apparaissait pas, quoi. Chez les enfants, bon, c'était plus ces questions de relégation, de stigmatisation, de ségrégation, de reconnaissance sociale. Mais dans ce lien entretenu avec le legs culturel, finalement, il y a très, très peu de choses. Donc ça aussi, ça m'a poussé aussi à m'interroger, à orienter mes recherches vers ça. Il y a un autre point parmi... justement, les justifications qui m'ont poussé à m'interroger sur ce qu'on appelait à l'époque la culture d'origine. C'est après le 11 septembre, on a eu toute une vague de travaux en France sur l'islam de France. Alors, l'islam de France, alors, il y a eu l'islam des prisons, la vague du halal, l'islam radical. Donc quelque chose finalement qui allait bien dans une certaine conception de l'histoire, quoi, et d'une conception idéologique aussi. Sans remettre en question, hein, mais peut-être qui donnait une image un peu faussée, un peu déformée de la réalité. Parce que la réalité, finalement, pour avoir côtoyé, moi aussi, hein, des bars et des collègues à longueur de journée, pour avoir vécu avec plein de familles très différentes dans ma jeunesse, l'horizon religieux, pour beaucoup de familles, c'était l'horizon religieux des familles maghrébines qui venaient du monde paysan, hein, comme la grande majorité. Des gens qui ont fait le jeu de l'exode rural, quoi. Et c'est une sorte d'islam populaire, quoi, avec un rapport direct au sacré, avec un usage thérapeutique, avec cette figure féminine, cette figure maternelle qui agit également, qui manipule comme ça des forces pour le bénéfice de son foyer, de sa maison. C'est l'islam maraboutique, c'est l'usage de la baraka, c'est tout ça. Mais alors tout ça, justement, tout cette... Tout ce paysage religieux, qu'est-ce qui est devenu en exil? Est-ce qu'il aurait disparu? Est-ce qu'il aurait laissé finalement la place au phénomène des reborn et à la vogue du halal? Moi, je pense pas. À la fois à travers mon expérience personnelle, mais aussi mon regard ethnographique, je m'aperçois qu'elle continue à survivre, cette religiosité, cette expérience, ce rapport au sacré. Mais dans des formes nouvelles, hein, dans des formes composites parfois, mais dans des formes qui viennent coller finalement, qui viennent trouver leur place dans un nouvel univers culturel d'adoption. C'est ça justement cet autre héritage dont je parlais tout à l'heure, cet héritage finalement qui échappe un petit peu au jeu du regard, d'un regard officiel, quoi, d'un regard formel, quoi. Pourquoi le mauvais œil? Justement, le mauvais œil s'inscrivait dans cette religiosité populaire. Moi, de mon histoire, quoi, de ma trajectoire personnelle, ce que je voyais, ben, c'était mes amis qui portaient la main de Fatma ou l'œil bleu, qui disaient en arabe des Khamsa Ferenek, qui veut dire 5 dans ton œil, c'est-à-dire pour me protéger contre la parole ou la grande bouche, comme on dit, nous, à Toulouse, parce que c'est aussi le sud. La grande bouche d'une voisine ou d'une vieille femme, contre la jalousie, contre les gens qui bavent, comme on dit, pour parler un peu local. Et ça, je voyais, il y avait des choses qui se faisaient, à la fois sur le plan symbolique, au niveau des représentations, au niveau de l'agir, dans les garanties au quotidien, dans la maison. C'est quelque chose qui faisait lien aussi avec cette histoire-là, cette histoire de l'exil, qui faisait lien également avec cette expérience qui remontait comme ça l'exode rural jusqu'à ces régions paysannes. Voilà, qui... Et ça, c'était une réalité. Là, la croyance au mauvais œil, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que, avant même d'attaquer cette recherche, c'est qu'elle était vivace, quoi, elle existait. Elle était à l'origine d'une pléthore de pratiques symboliques. Hein. Elle nourrissait également tout un marché économique en France. Vous allez dans les bazars maghrébins, vous avez des stands où vous vendez des produits contre le mauvais œil. Voilà. Ça se transmet également. Hein. La crainte du regard se transmet. Vient composer finalement un élément aussi de l'héritage, quoi, de l'héritage qui vient composer, qui vient se juxtaposer aux autres legs, parce qu'on est tous aujourd'hui, par définition, des êtres pluriels, quoi. Et surtout, ça mute, ça change, et ça se récompense, et ça, je reviens régulièrement là-dessus, pour dire, plus c'est la même chose et moins c'est la même chose, quoi. Voilà. Ce qu'on appelle la tradition, quoi. Cette tradition, en fait, c'est terriblement mutagène, quoi, finalement. Et alors justement, cette question du mauvais œil, j'ai commencé moi, à lire de la littérature. Bon, autant aujourd'hui en France, il y a très très peu de choses, du moins dans le cadre des migrations. Par contre, il y avait toute une littérature qui était un peu vieillie, c'est ce qu'on appelle l'ethnographie coloniale. Près de 100 ans de production, avec des auteurs comme Edmond Douté, Jean Desparmé, enfin des auteurs aujourd'hui oubliés des années 1900, 1920, 1930. Qui ont publié des pages et des pages sur cette question du mauvais œil en Afrique du Nord. Avec d'ailleurs souvent un arrière-fond, un discours un peu ambigu, qui servait justement à légitimer l'œuvre civilisatrice de la puissance coloniale, d'apporter la lumière un peu aux barbares, quoi. Voilà. Et ça, c'est un. Malgré tout, malgré ce discours idéologique, il y avait quand même des données ethnographiques. Et du coup, est arrivée une autre idée, quoi. C'était essayer d'appréhender à nouveau un objet ancien dans un contexte neuf. Un objet qui avait été étudié il y a près d'un siècle, dans un contexte, dans une situation complètement inédite, qui était la situation d'exil, quoi. Donc ça aussi légitimait cette recherche. Je préparais un petit peu ma première bibliographie, j'ai lu, j'ai commencé à observer chez moi, et je suis parti faire mon terrain. Alors j'ai fait un terrain sur ce qu'on appelle nous le Grand Mirail, quoi. Le Grand Mirail, c'est la zone des débarques, quoi, à Toulouse, quoi. À l'ouest de Toulouse, la cité du Mirail, Ampalo, c'est plus loin, il y avait la Rainerie, Bagatelle, enfin voilà, c'est... Les quartiers de relégation en Toulousain. Donc, je suis allé là-bas avec cette idée, une fois après avoir travaillé, je passe rapidement un petit peu sur, ça a été dit tout à l'heure, sur la méthode, quoi. Une fois après avoir travaillé sur ma famille, sur ma mémoire propre, d'aller quand même dégager de la donnée auprès des femmes, parce qu'il faut savoir que les femmes sont en fait celles qui apparaissent comme les gardiennes et puis les agents, hein, de ces pratiques-là. Donc je suis parti dans les associations, c'est quelque chose qui m'a été soufflé, d'aller voir du côté des associations, pour essayer d'approcher ces femmes. J'avais du mal, j'étais un homme, voilà. C'est vrai que dans les quartiers, c'est de plus en plus clivé, les espaces sont de plus en plus clivés, sur le plan pansexuel, donc c'était pas évident. Mais finalement, j'ai découvert un lieu en rentrant dans ces associations qui font de l'alphabétisation, des cours de cuisine, un no man's land, au propre comme au figuré, c'est-à-dire que eh bien, il n'y avait pas d'hommes, j'étais souvent le seul. Et du coup, la norme sexuelle s'arrêtait au seuil de l'association. Moi, j'ai vu une liberté de ton, les gens me parlaient très facilement entre eux, parfois c'était même presque choquant. Et le fait que je ne sois pas connu, parce que je n'habitais pas, je ne suis pas originaire de ces quartiers, moi je suis de Montauban, 50 km, le fait que je ne sois pas connu, que je sois étudiant, fasse une recherche sur leurs pratiques, hein, dans la perspective aussi, mais ça je l'aurais dit plus tard, de la valoriser. Je n'étais pas là pour la stigmatiser ou la piétiner. Eh bien, en fait, ça s'est très très bien passé. Donc on m'a ouvert les portes, j'ai pu discuter avec elle. Des passages, des heures et des heures comme ça d'enregistrement, de description. Alors c'était très très drôle parce que à la fin j'ai eu une étiquette un peu de spécialiste du mauvais œil, quoi. Donc les gens étaient prêts à parler avec moi, mais en échange à moi de leur donner une recette qu'elles ne connaissaient pas forcément. Donc j'étais moi aussi un dispenseur de rituels, de pratiques comme ça. Donc 2 ans de travail ethnographique, et puis j'ai soutenu en 2007, et le bouquin est sorti en 2010. Voilà un petit peu pour présenter la trajectoire. Peut-être que j'ai rentré un peu dans le vif du sujet en vous présentant un petit peu le tableau ethnographique de ma recherche. Je vais pas faire quelque chose d'exhaustif, quoi, mais je vais présenter un peu les grandes lignes avec des exemples, avec des illustrations choisies, quand même. Alors justement, ce mauvais œil, ce qu'on qualifie en français de mauvais œil, c'est ce qu'on appelle en arabe, avec la gutturale, langue sémitique, ce qu'on appelle l'ain. L'ain, en arabe, ça veut dire littéralement la source, l'œil. Voilà. Comme en hébreu d'ailleurs, hein, c'est le mauvais œil en hébreu, pareil, on retrouve la même. L'ain aussi, l'œil. Voilà. En berbère, parce qu'il y a beaucoup de familles marocaines, algériennes, on ne parle pas arabe, d'ailleurs on ne le comprend même pas. Curieux, des Arabes qui ne parlent pas arabe, qui ne le comprennent pas. On appelle ça le tit, voilà. T-I de T. Alors, dans la plupart des dialectes berbères qui sont très très différents, c'est quand même le même terme qui revient, hein, que ce soit au Maroc, en Kabylie, c'est le tit. Voilà. Donc, pour le définir, ça renvoie au sort du regard. Hein, l'œil est capable de projeter le sort à travers l'activité visuelle. Et derrière ce sort, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'envie. Voilà. Le moteur du mauvais œil. L'envie qui va léser, qui va détruire, qui va s'en prendre à l'objet désiré. Voilà. Et une fois qu'on a posé ça, une fois qu'on a défini ça, ben on s'aperçoit que ce haine, ben il fait partie d'une grande famille de sortilèges qu'on appelle la fascination et qui se décline dans une pluralité de cultures. La fascination, justement, le fascinum, hein, des anciens romains, quoi. C'est l'idée que le regard est mu par l'envie est mauvais, est dangereux. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout. Donc, on a d'abord le cas italien, quoi. La terre hantée par le mauvais œil, c'est quand même l'Italie avec sa capitale Naples, la fameuse Gettatour, qui a été étudiée par Ernesto De Martino. Qui a été cet ethnologue italien plus connu pour avoir fait découvrir au reste du monde la tarentelle. Voilà. L'histoire de l'araignée qui pique avec cette, voilà, au sud de l'Italie. La Grèce, hein, la Grèce avec c'est le tomatier en Grèce. Hein, la Turquie, hein, moi j'ai eu l'occasion de faire la Grèce et la Turquie. L'impression que ce sont des pays ennemis, mais sur la question du mauvais œil, on peut dire que c'est quelque chose qui les rassemble particulièrement. Vous avez des yeux bleus un peu partout, quoi. Ils sont affichés sur les murs, les voitures, les porte-clés, les combologues. Ouais. L'Espagne, hein, l'Espagne, le malojo avec la Galice, hein, cette étude d'un auteur qui s'appelle Carmelo Lizontolozana, qui a travaillé sur la sorcellerie en Galice, qui est cette région du nord-ouest de l'Espagne, hein, l'Espagne atlantique à cheval avec le Portugal. Pareil, hein, cette figure de la sorcière, et puis où le mauvais œil également a sa présence. Hein, Favresada dans le bocage, le regard du sorcier, l'œil du sorcier. L'Angleterre avec le Evil Eye, l'Allemagne avec le Bösenblick. On est vraiment dans quelque chose qui fait aussi dénominateur commun entre les cultures. Hein, cette crainte du regard. Mais il faut reconnaître que le bassin méditerranéen est particulièrement fécond, qu'on se tourne d'abord vers la mythologie avec Persée, la Gorgone, Méduse, le basilic, toutes ces créatures qui pouvaient vous terrasser par la seule activité du regard. Alors c'est vrai que ce mauvais œil, c'est quelque chose qui, du moins l'ain, hein, ce mauvais œil en Afrique du Nord, il est très ancien. Hein. Il existait déjà à l'époque phénicienne, pré-islamique, on le retrouve à l'époque romaine. Mais c'est vraiment l'islamisation de la région au 8e siècle qui va lui donner ses caractéristiques. Pour une simple raison, une raison importante, hein, c'est que la réalité du mauvais œil est mentionnée dans le Coran à plusieurs reprises. C'est-à-dire que vous avez plusieurs sourates, notamment ce qu'on appelle les sourates terminales, et dernières où régulièrement il est fait mention, ça c'est dans le texte, du mal d'un envieux qui envie. Le mal d'un envieux qui envie, c'est-à-dire ce mauvais œil. D'ailleurs, l'exégèse islamique également revient sur la réalité du mauvais œil. On a également tout un corpus de textes qu'on appelle les médecines du prophète, qui reprend les indications thérapeutiques du prophète Mahomet pour se soigner, qui ont été compilées au XIVe siècle à partir de ce qu'on appelle les hadiths, c'est-à-dire les traditions islamiques, et qui sont aujourd'hui traduites en français, où on a des pages entières de soins contre le mauvais œil à partir de, notamment de manipulation de Coran ou d'autres gestes. Ce qui caractérise encore, ce qui fait la singularité du mauvais œil en Afrique du Nord, dans le monde, on va dire arabo-musulman ou arabo-berbéro-musulman pour être plus précis et plus juste, c'est que le mal passe aussi par la bouche. Il passe par le regard, mais il passe aussi par la bouche. Et par la bouche, ce qui est redouté, c'est les paroles, les compliments un peu trop appuyés, par exemple. Les gens qui flattent, les gens qui ont un sourire un peu trop marqué, qui ont tendance un peu à la ramener, tout ça, a tendance un peu à s'en méfier, quoi. C'est-à-dire que la bouche, en même temps que le regard, est vecteur du mal. Pour continuer un petit peu sur les mécanismes, on a des jeteurs de sorts qui sont désignés dans l'espace social, les loucheurs, les gens qui ont les yeux, qui ont tendance à se rapprocher, les gens qui ont un problème au niveau du regard, quelque chose qui marque les yeux, les borgnes, mais également certains membres de tribus. Voilà. Ça, j'ai, par exemple, sur le terrain que j'ai fait à Toulouse, je suis tombé à un moment donné sur une jeune femme qui me disait, mais nous on se méfie de notre voisin parce que c'est un type, il vient de telle tribu à côté de Meknès. Bon, le mec était installé là depuis 30 ans. Mais on savait, et ça c'était dit, que ça se transmettait de génération en génération. Donc il y avait aussi ce discours qui passait, quoi. Donc à côté des jeteurs de sorts, des gens qui ont, on va dire, cette capacité à jeter le mal, les menteurs également. Voilà, les gens qui sont repérés socialement, il faut savoir que tout le monde est porteur potentiel de cette capacité à faire le mal. En fait, ce qui singularise aussi le mauvais œil dans l'espace nord-africain, c'est que chacun peut, malgré lui, faire du mal à autrui. Voilà. Et ça, c'est lié à... Ça s'est interprété en islam. C'est interprété à cause de l'âme duale. En fait, en islam, l'être humain en possède deux âmes. Voilà. Il y a ce qu'on appelle le nefs. Le nefs, comme en hébreu le nafash, c'est-à-dire le souffle, qui est l'équivalent, si vous voulez, ça c'est des informateurs, des informatrices qui me l'ont dit, elles mettaient ça sur le compte, elles trouvaient le synonyme, c'était l'inconscient. Voilà. C'est-à-dire, le nefs, c'est quelque chose qui est enfoui, c'est l'âme appétive, quoi. C'est quelque chose qui est plus fort que nous, quoi. C'est cette âme instinctive qu'il faut maîtriser, et maîtriser à travers l'acte de bienfaisance, la prière, dans le discours religieux, c'est ça, quoi. Il faut cadenasser sa nefs, cette potentialité, cette force qui, parfois, va utiliser le regard pour faire du mal à autrui. C'est-à-dire que, finalement, l'envie n'est que la manifestation de sa nefs profonde. Ça, c'est l'interprétation qui est donnée dans le contexte musulman. La nefs qui se distingue de ce qu'on appelle le roh, qui est l'âme noble qui a mené à survivre à la mort. Voilà un petit peu pour ces interprétations. Alors, comment il se manifeste un peu ce mauvais œil? Il se manifeste au quotidien, hein, c'est-à-dire que... On peut sortir de chez soi et puis tomber dessus. Il n'y a pas de temporalité précise pour rencontrer le mauvais œil. On peut le croiser n'importe quand, même si on verra tout à l'heure, il y a des situations plus à risque. Il n'y a rien qui n'échappe d'abord à ces dépradations. La santé, une chute. J'ai vu des gens tomber, quoi. Ça peut être interprété comme un coup de mauvais œil. Un commerce, la ruine d'un commerce. Casser une voiture de prix, un passage à l'examen, la machine à coudre, comme j'ai pu le repérer. Le champ des victimes et des cibles du mauvais œil est sans fin, finalement. Même les morts, je veux dire, par exemple, dans le catalogue ethnographique en Afrique du Nord, quand on voit, par exemple, de la terre sur une tombe qui se déforme, tout ça, on dit parfois, il y a un proverbe de la région de la Métidja, le pays algérois, qui dit que c'est l'envieux qui envie aux morts le repos dans sa tombe, quoi. C'est-à-dire que même ça, même le tas de fumier peut être victime du mauvais œil. Et ça, c'est impressionnant. Et malgré tout, il faut savoir qu'il y a quand même deux catégories dans les cas les plus graves qui sont surexposées, malgré tout, qui se dégagent un petit peu de ce martyrologe du mauvais œil. C'est les jeunes enfants, les nourrissons et jeunes enfants, et les mariés. Alors sur les enfants, moi je suis tombé sur des personnes qui m'ont dit « Ma sœur en est morte au Maroc ». Il y a un proverbe marocain qui dit que les deux tiers du cimetière sont remplis par le mauvais œil. Les parents peuvent donner le mauvais œil à leurs propres enfants. C'est le très très redouté « Ain l'oualiden », l'œil des parents qui peut se retourner contre ses êtres les plus chers. Parce que c'est quelque chose d'involontaire. Et les mariés, par exemple, il faut savoir que l'une des hypothèses du voile, c'est masquer le regard à l'envieux. Voilà, c'est l'une des hypothèses. Et donc, dans le mariage marocain ou algérien, il y a différents types de rituels comme ça qui visent justement à masquer le regard de la mariée aux yeux de l'assistance. Voilà. Le visage de la mariée, pardon, aux yeux de l'assistance. Donc voilà, par exemple, pour les enfants, alors les symptômes d'une attaque de mauvais œil sur les enfants, mais même des jeunes, hein, m'en ont parlé. Chez les enfants, ça peut être c'est des crises de pleurs. Par exemple, on peut interpréter crise de pleurs après une visite. Des femmes viennent visiter un enfant qui vient de naître, un nourrisson. Quelques heures après, l'enfant pleure très très fort. On n'arrive pas à le consoler. Ça dure. Souvent, les mères de famille vont déduire, tiens, présence, passage, attaque de mauvais œil. Parfois, il y a d'autres, ça peut être combiné à des maux de tête très très violents. Et moi, on m'a dit, ça c'est quelque chose qui a été régulièrement aussi cité, des bâillements sans fin. Alors les gens bailleraient, mais pas jusqu'au bout, quoi. Ça c'est plusieurs fois, donc c'est très douloureux, ça prend comme ça, et puis on n'arrive pas à le fermer, quoi. Et ça peut vous prendre pendant plusieurs heures. Et parfois, ça peut être des moments de torpeur aussi, et ça peut vous tuer en quelques heures. Moi, j'ai des gens qui m'ont décrit ça, quoi, pour l'avoir vu. Hein. D'un jeune de 20 ans, étudiant, me raconte comment, dans son village de Rif, il a vu une personne de sa famille mourir d'un coup de mauvais œil en quelques heures. Voilà. Formé au rationalisme. Voilà. Très politisé, il arrive, vous décrit ça. Voilà. Et il y croit. Voilà. C'est un peu l'histoire, c'est chacun d'entre nous, ça. Voilà. On peut être étudiant à l'IEP, puis croire aux extraterrestres, ou croire à la Dame Blanche, ou croire aux esprits, ou même à Sciences Po. Il n'y a aucun problème. C'est ça aussi. Surtout quand on a 20 ans, dans ce moment où le merveilleux, le surnaturel également, occupe une place privilégiée dans notre représentation du monde. Alors malgré tout, on peut se protéger, quoi. On peut se protéger. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Hein. C'est bon, ouais. Alors sur les protections, bon, il faut savoir qu'il y a deux grands leviers, quoi. Il y a la prévention et il y a la cure. Alors le domaine de la prévention, tout d'abord le bijou, hein, avec cette vedette, hein, qui est la Khemsa, le mauvais œil. La main de Fatma. Parfois, vous avez un œil bleu au milieu, justement. La main de Fatma, qui est cette main, d'ailleurs, qui n'a rien de religieux, hein, même si Chirac l'avait placée parmi les signes confessionnels à bannir des salles de classe en 2003, ça a fait un tollé, parce que ce n'est pas un signe confessionnel. Il y avait un très bon article qui était sorti dans Le Monde à l'époque, d'une personne dont les parents de confession juive, pieds noirs, qui disait « Mais moi, je l'ai toujours porté, c'est ma grand-mère, ça n'a strictement rien de religieux ». D'identitaire sur le plan religieux, c'est une amulette contre le regard porteur de malheur. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est en commun avec les juifs et les musulmans. Et d'ailleurs, dans l'usage, on retrouve d'ailleurs l'usage de la main Fatma jusqu'au XVIIe siècle en Espagne, où elle a été bannie lorsque Philippe II a expulsé les morisques de l'autre côté de la Méditerranée. Donc la remsa, en fait, c'est ce bijou qu'on retrouve partout. Hein. C'est une main avec l'auriculaire et le pouce en forme de corne. Pourquoi ? Ben, ça suggère la crevaison des yeux. Le majeur, symbole phallique, hein, il crève l'œil. Voilà. En fait, et la main protège. Et en plus, on a le 5. Le 5, c'est un chiffre efficient. C'est le charme suprême, on va dire, contre le mauvais œil. Donc en fait, c'est très drôle, on a une juxtaposition de signifiés qui fait que c'est un symbole très très populaire. Alors l'origine, c'est la main de Tanit, hein, d'après ce que j'ai pu lire. Donc c'est Tanit qui est une divinité phénicienne dont le culte était très populaire en Afrique du Nord jusqu'au 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Et finalement, qui a réussi à... qu'on retrouve un partage chez les juifs comme chez les musulmans. Et qui aujourd'hui, malheureusement, est en perte de vitesse. Pourquoi ? Parce que chez beaucoup de musulmans, c'est considéré comme un signe païen. Voilà. Ce n'est pas un signe assez orthodoxe. C'est un vieux souvenir du temps de la jahiliya, du temps du paganisme. Et ça n'a rien à faire dans l'arsenal contre le mauvais œil. Voilà. Donc, exit. C'est vrai que depuis quelques années, on assiste quand même à une baisse d'intérêt pour ce signe. Par contre, là où... ce signe, hein, pour revenir un petit peu sur Amen Fatma, aujourd'hui, sous forme de bijoux, mais également d'autocollants, de parfums pour voitures, de t-shirts, de porte-clés, c'est quelque de tableaux, ça se décline sur un nombre impressionnant de formats. Et ça, c'est aussi la globalisation, quoi. C'est quelque chose qui... Ça s'applique sur un nombre impressionnant de supports. Deuxième bijou, comme ça, deuxième signe, c'est l'œil bleu. Quoi. Alors ça tendance à détrôner. Il n'y a pas de terme. J'ai pas vu de terme utilisé. Les gens appellent l'œil bleu. Chez les jeunes, de plus en plus tendance à remplacer la main Fatma. Petit œil bleu, pendentif, en pâte de verre. Rien d'autre que cet œil qu'on retrouve en Turquie, en Grèce, et qui aujourd'hui fait une offensive tout azimut sur les commerces d'une grande partie de la planète. Là, je reviens d'un colloque au Portugal, au nord du Portugal, justement, un colloque de médecine populaire. Il y avait un stand spécialiste du mauvais œil, portugais. Il vendait plein d'œils bleus que moi, j'avais trouvé dans les bazars du quartier Arnaud-Bernard à Toulouse, quoi, du quartier maghrébin. Et c'est ça qui est passionnant. C'est que finalement, ces produits-là sont fabriqués en Chine ou à Taïwan et s'exportent très, très bien. Voilà. C'est cette mondialisation aussi, comment la mondialisation a pu récupérer, le commerce international a pu récupérer finalement ces signes religieux. Le fer à cheval, alors le fer à cheval, pareil, bon, ça c'est un classique, hein, le fer à cheval. Il crève les deux yeux, hein, contendant. Hein. Alors pour l'œil bleu, le même agit sur le même. L'œil annule l'œil, c'est l'histoire de la méduse. Hein. Comment se protéger ? Ben, mettez la méduse devant vous. Donc le fer à cheval, pareil, en forme de pendentif. Le poisson articulé, ça c'est chez les Tunisiens. Voilà. Un petit poisson articulé en forme de bijou, c'est très très mignon. Voilà, une forme, voilà, avec la queue qui s'articule comme ça. C'est très très bien fait. À côté du signe, ben, on a le texte. Bon, je passe rapidement le texte. Avec un texte coranique, pareil qui est exploité pour protéger. C'est le verset 256 de la seconde sourate du Coran, qu'on appelle le verset du trône, et qui existe, pareil, sur très nombreux formats, qu'on appelle Ayat al-Kursi en arabe, le verset du trône, et qui est utilisé justement, qui est une panacée, une sorte de protection universelle contre différentes formes de mots, et y compris le mauvais œil. Je continue pour montrer la diversité, la richesse également de ces traditions qu'on retrouve ici, finalement, et qui se décloisonnent. Hein. Les gens empruntent les choses de leurs voisins. Tout ce qui relève des restes animaux. Alors, les cornes de vache. J'ai vu des cornes de vache à l'entrée de certains magasins. J'ai vu une paire de cornes de vache avec à la craie, c'était devant un kebab, il y avait écrit Allah à la craie bleue avec les cornes de vache. Addition de signifier le sacré plus les cornes de vache qui perce les yeux du fascinateur. Tout est dans l'imagination, quoi, finalement. Y a un deuxième palier, c'est les fumigations de plantes. Ça, on retrouve ça dans les familles, par exemple. Quand on régulièrement, pas mal de familles marocaines notamment, quand on estime, voilà, il y a une visite ou voilà, il y a quelque chose d'un peu chargé, ou j'ai peut-être l'intuition que, ou je fais déduire l'hypothèse que peut-être, on fait passer des ce qu'on appelle le prol en arabe, c'est-à-dire le prol, c'est les fumigations, les aromates, le benjoin, voilà, ce qu'on appelle le harmel, les graines de harmel. Et une plante, bon, je passe rapidement, qui est ce qu'on appelle le fassour, qui est la férule commune. Ça fait une sorte de crème poisseuse, comme ça, de résine toxique, qui est utilisée justement pour éloigner des mauvaises forces. Voilà, ça c'est le premier palier, on va dire, de la prévention, quoi. Alors ça, il faut savoir que ça change beaucoup, parce que... par exemple, les mères de famille perdent de moins en moins de temps à passer les fumigations chez elles, notamment celles qui travaillent. Alors, qu'est-ce qu'elles font? J'en ai vu certaines qui prennent un bâtonnet de nakshampa planté dans une patate, on le met à côté de la télé, et puis voilà. Je fais mon travail rituel. Je change complètement, si vous voulez, d'objet, mais je vais lui donner la même signification. En plus, on gagne un temps fou, parce que faire, par exemple, son encens traditionnel, c'est dans un brûle-encens avec du charbon, ça en fume, quoi. C'est quelque chose qui pique les yeux. Puis dans un immeuble, c'est pas évident parce que la voisine va peut-être gueuler. Donc voilà, donc il y a toutes ces contraintes. Donc on va au plus pressé. Voilà. Avec la fameuse double journée, on permet de gagner un peu de temps. Deuxième niveau, le soin. Alors, justement, malgré toutes les... C'est une guerre, hein, c'est une guerre sournoise quand même, hein, c'est un conflit, c'est latent, quoi. Malgré toutes ces pratiques, parfois, ben, le mal peut remporter la première manche, on va dire. Là, ce que j'ai rencontré, en général, les personnes qui croisent le mauvais œil sont des enfants, ouais, qui, voilà, ou parfois des adolescents qui vont demander à leur mère de pratiquer un rituel curatif. Et là, j'ai récolté différentes recettes, quoi. Le rite par l'alun, quoi. Alors ça, c'est très drôle aussi. Montrer comment ça s'est mondialisé. L'alun que vous allez acheter dans une boutique tenue par un Marocain, à Toulouse, c'est très bon. Parce que souvent, c'est Alain Tarius qui avait démontré ça dans les Fourmis d'Europe. Des Marocains qui sont eux-mêmes anciens ouvriers, qui vont se reconvertir dans le commerce, et dans le commerce vont proposer un petit peu ces produits symboliques. Donc la pierre d'alun, qui est disponible dans des sachets de 500 grammes, exportés par la maison Spigol à Marseille, qui vend également le ras el hanout et les épices pour faire le couscous, et cet alun qui vient de Chine. Alors, c'est la maison Spigol que j'avais contacté qui m'avait dit ça. Chine ou Inde, voilà. Donc l'alun, c'est cette sorte de pierre qu'on utilise pour calmer le feu du rasoir. Et donc vous prenez un éclat de pierre d'alun, et quand on voit un enfant, je suppose qu'il est malade, on lui fait 7 fois le tour de la tête en prononçant ce qu'on appelle la Fatiha, qui est la première sourate, qui est l'équivalent un peu du paternoster, quoi, qui est cette prière à tout faire. On le brûle sur le feu du gaz. Normalement, quand il y a mauvais œil, il y a un œil qui se forme. Une fois que l'œil s'est formé, je le prends, je le détruis, je le jette à la poubelle ou aux toilettes. Ouais, je tire la chasse, c'est fini. Voilà. Dans le rituel d'expulsion, quoi, avec manipulation, usage du sacré. Voilà. Métonymie et métaphorie, un peu pour parler comme Claude Lévi-Strauss. Parfois, la lame peut être remplacée par une poignée de sel. Alors, c'est encore plus simple. Une poignée de sel. Par contre, là, je ne jette pas dans les toilettes parce que, comme on m'a dit, c'est na'ama en arabe. Na'ama, c'est de la nourriture. La nourriture, je la jette par la fenêtre. D'autant plus que si quelqu'un passe dans la rue, il peut marcher dessus, il va le prendre avec lui. C'est comme ça qu'on me l'a présenté. Encore plus simple, alors ça c'est sur les nourrissons. Hein, c'est des allumettes, quoi. Alors, des allumettes. 7 allumettes avec un verre d'eau. Tac, à la Fatiha. Fais le tour. J'éteins. Pourquoi ? Parce que pour beaucoup de personnes, associer le mauvais œil à un feu, j'éteins le feu dans l'eau, pas besoin d'interpréter, tac, les choses sont faites. Toujours devant l'enfant, alors je ne sais pas si on peut parler d'efficacité symbolique. Parfois trois allumettes, ça c'est une recette plutôt marocaine. Et moi, ce que m'ont dit les personnes, c'est que c'est plutôt efficace, quoi. Y a pas de... Moi, j'ai pas rencontré de personnes pour qui il y avait des problèmes graves. Hein. Alors peut-être que ça, y en a eu, mais j'ai pas eu accès à leurs paroles. Mais me disaient que ces petits rituels, cette cure familiale, cette médecine familiale du mauvais œil, était efficiente en soi, quoi. Alors, ce tableau que je vous ai fait, hein, ce tableau que j'ai dépeint ici, hein, dans les quartiers à Toulouse. Hein, j'aurais pu faire cette étude à Roanne ou à Roubaix ou à Marseille. Il n'y a pas d'incidence du terrain, hein, c'est pareil. Il faut quand même le mettre en perspective avec ce qui se passe là-bas, quoi. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Voilà. À la fois la croyance, le discours sur la croyance, mais aussi l'ensemble des savoirs, des pratiques, l'agir, eh ben ça change. On n'est pas dans la réplication du même. Hein. On est dans de la nouveauté, quoi. Ça mute. Ça mute et finalement, ça donne des choses nouvelles qui n'ont pas leur pendant dans les pays de départ. Alors moi, ce que j'ai pu voir, par exemple, comment on pourrait définir un petit peu les changements. D'abord, une esthétisation des protections. Il faut que les protections soient belles. Il y a le sens du beau, quand même, qui est là. Quoi. Il y a les amulettes, tout ça. Il faut que, une fonction décorative, hein, je veux dire. Des tableaux, des couleurs... Quand on fait, par exemple, quand on voit les tableaux ethnographiques, Pierre Bourdieu, dans les années 60, on disait que Pierre Bourdieu était l'une de mes références, parce qu'il a commencé par une sociologie de l'Algérie. Il est passé de la philo à l'ethnologie, puis la sociologie. Et dans son époque algérienne, il décrit à un moment donné l'utilisation des pierres du foyer en Kabylie pour lutter contre le mauvais œil. Ça, vous ne le retrouvez pas. C'est pas possible. Idem pour la mâchoire de hérisson, il n'y a pas. Voilà. C'est-à-dire que l'ensemble de ces produits, de ces objets qui renvoyaient quand même une culture rurale, c'est fini, quoi, non, on ne l'a pas. Par contre, on a de nouvelles protections, et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'imagination a toujours un pas de plus sur le mal. Quoi. Le CD, on recycle des objets. C'est un succès depuis quelques années, un CD, alors je ne sais pas si vous avez vu ça. Un CD dans une voiture, avec parfois des sentences coraniques. Le CD n'est rien d'autre qu'un œil qui réfléchit, qui vous éblouit. Voilà. L'œil annule l'œil, mais alors l'œil réfléchissant, c'est encore mieux. Et alors l'œil réfléchissant avec du sacré, c'est encore mieux. Des choses nouvelles, par exemple, moi j'ai vu en banlieue toulousaine, quelqu'un qui bâtissait un pavillon, il a mis un pneu. Un pneu sur la grille de la maison. Pourquoi un pneu ? Ben c'était un œil. Mais un œil qui était proportionnel à l'investissement. Il y a une maison, mettre un œil. Voilà. J'ai trouvé ça très très drôle. Mais c'est-à-dire, on invente. Quoi. Les gens déduisent comme ça, par imagination, on recycle. Voilà. Donc on peut imaginer à terme encore de très nombreuses, une marge comme ça de créativité pour l'avenir. Au niveau du travail rituel, des femmes, de la cure, ce qui apparaît, d'abord, une déperdition des savoirs, alors ça, notamment entre générations. De toute façon, celles qui savent le mieux, ce sont les femmes les plus âgées. Ce sont les matrones, les grands-mères, qui ont eu beaucoup d'enfants, qui ont traversé beaucoup de rivières, pour reprendre la chanson de Jimmy Cliff. Quoi. Donc, ces femmes-là, qui ont cette expérience de la vie, voilà, elles ont ces recettes-là. Mais vous savez que les plus jeunes, notamment les femmes qui sont arrivées dans les années 90, les années 80, elles ont souvent des défaillances, quoi. Des lacunes en termes de connaissances. Et ça, c'est quelque chose qui est marqué. Il y a une césure générationnelle dans le rapport à la culture depuis la fin des années 80, début des années 90. Quoi. Il y a cette tradition ancestrale, quoi. Vraiment a disparu. Hein. Et ça, Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayegh avaient commencé à le repérer dans ce bouquin qui s'appelait « Le déracinement ». Vous avez dit que le grand mouvement d'exode rural, suite à la guerre d'Algérie, des Algériens vers les grandes villes et vers la France, allait entraîner la disparition à l'époque c'était déjà le cas, de cette culture ancestrale, avec son berbère, quoi, avec son vieux substrat berbère, tout ça on le sent, quoi. C'est vrai que tendance à disparaître. Donc c'est des lacunes, elles font moins également, hein, elles pratiquent moins malgré tout qu'avant. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit des rituels très très plastiques, quoi. C'est que finalement le rite s'adapte aux connaissances de chacune. C'est ça qui est assez... Par exemple, moi j'ai vu une maman qui faisait la pierre d'Alain. Et je vois que vous dites, bon, parce que moi je faisais les... Ça aussi c'est l'intérêt de parler la langue arabe, c'est que ça facilitait quand les échanges. Et donc je lui dis, madame, mais quand vous faites ça, est-ce que vous dites la fatiha, est-ce que vous dites la prière? Elle me dit non. Et je dis, pourquoi vous ne la dites pas? Parce que je ne la sais pas. Et vous la faites quand même? Elle dit oui. Voilà. Donc je m'en passe et je le fais pareil. Voilà. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de contrainte. Chacun adapte, on va dire, le rite à ses propres connaissances. Et puis encore un autre élément que j'ai soulevé tout à l'heure, c'est qu'on assiste à un décloisonnement des pratiques, quoi. C'est-à-dire, dans une même barre, vous allez avoir une famille Chaoui, en dessous vous avez une famille Kabyle, en bas des gens de Meknès. Je saute parce qu'après il y a des malgaches, mais si je prends encore en bas, il y aurait notre famille de, je sais pas, du sud du Maroc. Donc ce sont des gens avec chacun quand même des savoirs qui renvoient de leur propre région, quoi, des savoirs locaux, quoi. Et c'est vrai que, avec les sociabilités, notamment les femmes se retrouvent pas mal, hein, se rencontrent pour échanger, pour s'entraider, ben, il y a transfert, il y a échange de ces savoirs. Dans le cadre de ces sociabilités féminines dans les quartiers, quoi. Voilà. Alors du côté des jeunes, alors c'est un point, dernier point que j'ai soulevé dans ma recherche. Et c'est vrai que la croyance, quand même, enfin, l'assentiment, on va dire, plutôt que croyance, c'est un terme aussi qui fait débat. L'assentiment que l'on accorde à la réalité du mauvais œil, quoi. Le fait de dire que c'est vrai. Moi, j'ai retrouvé quand même chez une majorité de jeunes. Entre 16, 17, jusqu'à 30 ans. Voilà. Garçons et filles confondus. Chez une majorité. Alors, par exemple, chez les musulmans, les jeunes qui se définissaient comme musulmans, musulmans pratiquants, eux le disaient, ils me disaient, on y croit, parce que j'y crois, parce que c'est mentionné dans le Coran. Donc, c'est vrai que la référence coranique faisait justification. Pour d'autres disaient, parce que j'ai grandi avec ça, ou parce que j'ai vu, il y avait aussi le témoignage. Le fait d'avoir observé ou alors le témoignage d'un tel, d'un proche en général, venait donner du crédit, venait asseoir la croyance, quoi. Malgré tout, moi j'ai vu à deux pôles opposés des critiques très très fortes chez les jeunes. D'abord la critique positiviste. Alors des jeunes, souvent, jeunes moins jeunes, on va dire, d'après la quarantaine, génération beurre, qui parfois ont pu tenir devant moi, souvent des garçons en majorité, un discours très très, très, très critique vis-à-vis de ces savoirs maternels, quoi. Ça, c'est des conneries, c'est du n'importe quoi, c'est de la magie, elles te font cramer des trucs qui puent. Enfin, voilà, c'est assez patent, quoi. À l'inverse, à l'autre bout, on va avoir la critique orthodoxe, c'est-à-dire des jeunes reborn, comme on dit, et qui ont redécouvert la foi, qui la pratiquent et qui vont critiquer, non pas, si vous voulez, la croyance, parce qu'elle est dans le texte, mais les moyens, si vous voulez. Voilà. C'est-à-dire que ces affaires de femmes, quoi, ces choses de femmes, c'est pas bon du tout, pour reprendre texto, à l'énoncé. Pourquoi ? Parce que ça rentre pas dans le cadre des règles licites ou des règles formelles, des moyens de se protéger. Parce qu'il y a des moyens de se protéger selon la doctrine orthodoxe, quoi. C'est-à-dire à partir du texte, du Coran ou de la Rokia, cette médecine du prophète dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors malgré tout, bon, ce qu'on peut constater, c'est que cette question du mauvais œil, quoi, ce mauvais œil, cette crainte du mauvais œil, elle passe les générations et elle fait lien à la fois avec les générations des parents, mais avec le pays aussi. Et même au-delà, finalement. Elle fait lien avec les communautés. Enfin, les communautés, excusez-moi. Moi-même, je tombe dans le piège. Entre les présences. Voilà. Entre entre l'exil juif ou alors les Italiens ou les Espagnols. Ça aussi, c'est quelque chose qui traverse. Comme quoi, il y avait aussi parfois, on se rencontre autour du mauvais œil. J'ai eu un témoignage émouvant d'une maman qui habitait à la Faorette, qui est un quartier pas terrible, qu'on connaît beaucoup en France, d'origine algérienne, elle venait d'Oran, qui me disait que quand elle était enfant, à l'époque coloniale, ils allaient voir leurs voisins espagnols. Oran, c'était la ville espagnole. Ville de fête, d'ailleurs, c'est toujours resté. C'est la ville des... Beaucoup de gens d'Alicante, Murcie, d'ailleurs. Elle allait voir la voisine espagnole qui était compétente pour enlever le mauvais œil. Donc, pareil, il y avait quand même des passerelles entre les groupes. Et on se retrouvait autour de la thérapie contre les maux du surnaturel. Donc, elle m'a raconté, elle prenait un bol d'eau et versait des gouttes d'huile d'olive, quoi. Et selon les gouttes, on arrivait à distinguer qu'il y avait... Voilà. Et donc, c'était des... Voilà, il y avait comme ça des échanges, des collaborations, des coopérations autour de ça, quoi, autour de la question de la thérapie. Mais pour terminer sur ce point ethnographique, un dernier point, peut-être ce qui fait le succès aujourd'hui du mauvais œil, on peut le lire de manière sociologique. C'est une hypothèse que j'ai commencé à formuler à la fin de ma recherche. Et ça, c'est lié aux conditions de l'exil. C'est-à-dire que l'exil est un déchirement. L'exil est un déchirement et une condamnation. Une condamnation à quoi ? À réussir. À réussir socialement, à réussir économiquement. Le prix à payer, si vous voulez, pour partir, pour quitter sa famille, ses amis, ce qui faisait son identité, c'est la réussite. Il suffit d'aller au Maroc ou au Portugal et de voir des quartiers entiers de pavillons vides 10 mois par an pour comprendre ce que ça veut dire. Alors, le premier investissement d'un migrant, c'est le pavillon. C'est du symbolique. Même si je n'y vis pas, je démontre aux gens qui sont restés là-bas, mes proches, que j'ai réussi. Voilà. Que j'ai réussi socialement. Voilà. J'ai répondu à ma part du pacte. Voilà. J'ai signé ma partie du pacte. Donc du coup, on est condamné à réussir et il y a une compétition à la réussite. Voilà. Du coup, l'accident de vie, l'échec, va être d'autant plus difficilement accepté, quoi, pour certains. Et du coup, on pourra mettre ça parfois sur le compte de la jalousie d'une voisine, d'une personne de la famille, du coup d'œil d'un tiers. J'ai revisionné là, dernièrement la Graine et le Mulet. Je sais pas, le film qui a été tourné à 7, c'est pas très loin. D'Abdelatif Kechiche, hein, c'est ça. Hein. Où il y a des scènes ethnographiques, tout est dit dans ce film. Et à un moment donné, l'histoire, hein, c'est un père de famille d'ailleurs qui s'appelle Slimane en plus, qui essaie d'ouvrir un restaurant de poissons à 7. Donc, il y a des galères en dernière minute, c'est un peu compliqué, tout ça. Et à un moment donné, il y a une réunion de famille, il y a une des filles qui dit « Mais c'est peut-être la haine, c'est peut-être le coup du mauvais œil. » Voilà. Comme quoi, même ça, ça a été intégré, ça a été peint dans ce film-là. Donc, c'est vrai que la concurrence économique peut induire, du coup, une réactualisation, une réaffirmation de la croyance, quoi. Voilà. Alors, voilà pour ce tableau. Alors, moi, je voulais terminer un petit peu sur... Voilà, sur il y a un accident de recherche, ou, je ne sais pas comment appeler ça, ou un télescopage qui n'était pas attendu, une rencontre auquel je ne m'attendais pas et qui a bouleversé un petit peu mon regard sur mon objet. Donc, quand j'ai commencé, quoi, c'était les années 2000, quoi, il y a eu le 11 septembre, et puis très très vite a commencé à se dessiner en France un discours qui voulait voir dans les cultures des étrangers la source d'une grande partie des difficultés vécues par la société française. Le culturalisme, quoi. C'est-à-dire que finalement, le problème, ce n'était pas tant la relégation ou les discriminations ou les conséquences de décennies de politique économique, c'était soit la mauvaise volonté, soit alors une culture ou un héritage culturel qui avait du mal à se fondre dans ce pays et qui pouvait expliquer la tendance grégaire des étrangers à vivre ensemble ou à voler, quoi. Rapidement, un florilège. On a eu quand même dans ce pays une académicienne de renom qui a dit que la polygamie, c'est un journal russe, la polygamie des Noirs était l'une des causes de la délinquance en banlieue parisienne. De même qu'on a eu cette idée que le communautarisme, finalement, était cet instinct atavique des migrants à vivre entre eux et non plus la conséquence des discriminations ou de l'impossibilité à échapper à son espace de vie à cause des limitations sur le marché de l'emploi ou du logement. Puis, bien sûr, le discours de Dakar, dont le rédacteur s'était targué à l'époque d'avoir lu de l'anthropologie. Donc, moi, je travaillais finalement sur quelque chose qui dérangeait, parce que je travaillais sur quoi, finalement? Sur ce qu'on appelait autrefois la magie, quoi. La magie des femmes. Des femmes venues d'Afrique du Nord. Or, la magie, pendant très longtemps, ça a été quoi? Ça a été l'expression de l'âme primitive, de la pensée prélogique, quoi. C'était le signe de l'infériorité culturelle, quand vous lisez tous les évolutionnistes, quand vous lisez Lévi-Brull, c'est ça, finalement. Et est-ce que moi, du coup, alors c'est comme ça où ça, cette crise, quoi, quand ça m'a travaillé, ce trouble, est-ce que je venais pas, moi, malgré moi, finalement, dépeindre un exotisme de l'intérieur? Est-ce que je venais dépeindre une figure folklorisée, un petit peu, hein, qui sentait bon, finalement, l'Algérie coloniale et l'œuvre civilisatrice de la France? Est-ce que je venais pas, finalement, malgré moi, cautionner ce discours essentialiste? Est-ce que je venais pas le légitimer? Et là, c'est vrai que ça a été, dur, quoi. C'était comment essayer de réappréhender de nouveau cette recherche pour éviter de tendre une perche à des gens qui produisent un discours que je vomis, finalement. Donc, en fait, il y a eu cette question, quoi. C'est comment finalement garantir ma recherche sur un plan éthique tout en évitant qu'elle serve à cautionner cet essentialisme, quoi, ce discours culturaliste dont on voit aujourd'hui qu'il a droit de citer, quoi, finalement. Donc j'ai commencé à réfléchir un petit peu sur une posture épistémologique et éthique. Voilà. Dans un premier temps, et c'est là où Bourdieu m'a encore aidé, je lui dois beaucoup, c'est vrai, pratiquer la rupture épistémologique. C'est-à-dire critiquer le sens commun, quoi, critiquer les mots, quoi, les mots qu'on utilise. Un mot, par exemple, comme communauté ou comme magie, n'est plus valide, on va dire. Ne sont pas des concepts valides, quoi, scientifiquement. Pourquoi? Parce qu'ils ont été épuisés jusqu'à la lie, quoi, jusqu'à la corde par l'usage commun, quoi. Puis parce qu'ils sont chargés aussi par un sens, par une signification qui fait qu'ils ne sont plus opérationnels dans le cadre d'une recherche scientifique. Donc, pareil, bannir, exit aussi ces termes, toute cette terminologie qui pouvait plomber, malgré soi, la recherche. La critique des sources, ça aussi, ça a été le deuxième point. Donc moi, j'avais à la disposition toute cette littérature coloniale. Il y en a des papiers, des textes. En plus, c'est vraiment l'époque des érudits, quoi, fin 19e, des têtes bien faites, hein, des gens qui voyageaient peu, mais finalement qui en savaient beaucoup. Un peu la Marcel Mauss, quoi. Donc des gros pavés, mais avec beaucoup d'ethnographie, hein, avec une écriture. L'écriture, voilà, qu'on ne peut pas critiquer, quoi. Mais avec un discours, une légitimation idéologique derrière qui fait problème quand même. Donc comment utiliser ces sources? Moi j'ai essayé de les filtrer, quoi. C'était, comment dire, séparer le grain de l'ivraie, récupérer en fait les données ethnographiques, mais en les extirpant, en essayant du moins de les extirper de cette gangue idéologique qui a tendance à les charger, quoi. Et puis, troisième point, l'engagement, quoi. Et peut-être je terminerai là-dessus. L'engagement de l'ethnologue. C'est là où elle dit que j'avais une posture engagée. Alors, moi, ça a été difficile. C'était comment, finalement, intégrer ma subjectivité dans cette recherche-là, quoi. Dans le cadre d'une recherche scientifique. C'est vrai que moi, je suis sorti régulièrement d'une posture d'observateur pour marquer une empathie, une sympathie, vis-à-vis, finalement, d'un objet, mais aussi vis-à-vis de personnes, de gens qui font écho à mon histoire personnelle. Ben, c'est une façon aussi de travailler sur moi. C'était une façon, cette recherche, de me raconter ou d'essayer de mettre par écrit des choses qui ont traversé mon histoire. Donc c'est vrai que cette subjectivité, régulièrement, elle est ressortie, quoi. Elle est ressortie, mais c'est posé la question comment d'ailleurs, d'abord, justifier cette empathie, cet engagement, où placer la frontière avec le logos, quoi, avec le discours scientifique. J'ai toujours pas de réponse. Ce que j'ai essayé de faire, malgré tout, c'est essayer de conjuguer justement ce pathos, cette empathie et ce logos, cette raison, quoi, qui fait principe directeur. J'ai essayé de garder finalement un équilibre, qui a été mon équilibre à moi. C'était éviter l'apologie ou la critique d'un côté, mais éviter aussi de l'autre côté ce que j'appelle l'illusion intellectualiste, c'est-à-dire l'idée de s'effacer complètement devant les faits, où l'ethnographe n'est pas là. Il y a des textes comme ça, où l'ethnographe est absent. On va parfois utiliser telle personne de la conjugaison. Finalement, on a une description, mais où l'œil est absent, quoi. Cette illusion où on peut s'effacer devant les faits, puis avec cette conséquence qui est l'indifférence aussi. Donc j'ai essayé de suivre ce fil conducteur. Alors je ne sais pas, bon, c'est pas parfait, hein, c'est du tâtonnement, mais c'est peut-être une première voie pour essayer de poser des garde-fous vis-à-vis d'un contexte idéologique qui, malgré moi, hein, je ne l'attendais pas, est venu s'inviter entre moi et mon objet. Voilà, je vous remercie.